Chapitre 8. Alors qu'elle allait passer à l'action, Nietzsche remarqua un détail qui l'indigna. Folle de rage, elle se tourna vers la villageoise la plus proche.
« Où peut-on trouver une bassine dans ce trou infect ?»
Surprise par cette question, la femme hésita puis tendit un doigt tremblant vers une maison à un étage non loin de là.
« Dans la cour, derrière le marchand de poterie, il y a un lavoir et... »
Nietzsche prit la villageoise par la gorge.
« Ne me raconte pas ta vie. Va chercher une paire de ciseaux et attends-moi là-bas. »
Les yeux écarquillés, la femme ne bougea pas et la maîtresse de la mort dut la pousser violemment.
« Dépêche-toi, tu préférais mourir sur le champ ?»
Nietzsche tira sur une des lanières de cuir cloutée que Cardiff portait en permanence sur l'épaule. L'homme ne fit rien pour l'en empêcher, mais tandis qu'elle s'emparait de la lanière, il lui prit le poignet au vol.
« J'espère que tu prévois de noyer cette petite garce, ou de lui découper des morceaux de peau avec les ciseaux, puis de lui crever les yeux !»
La laine de Kadar empestant l'oignon et la bière, Nietzsche plissa les narines de dégoût.
« Voilà comment nous allons procéder. Pendant que tu t'occuperas de la gamine, et qu'elle suppliera que tu l'épargnes, je sélectionnerai quelques jeunes types, ou peut-être des femmes, histoire de faire un exemple. Que préfères-tu cette fois? Des otages masculins ou féminins ?»
Nietzsche baissa un regard noir sur les doigts qui enserraient son poignet. Avec un grognement menaçant, Cardiff les retira très lentement. La maîtresse de la mort se tourna vers la gamine, lui enroula la lanière autour du cou, un collier improvisé, et fit une boucle autour de sa main avec les deux extrémités de la laisse. La fille en couina de surprise. Depuis sa naissance, on ne l'avait sans doute jamais traitée si brutalement. Impitoyable, Nietzsche la tira avec elle en direction du bâtiment indiqué par la villageoise. Voyant que la maîtresse de la mort était furieuse, personne n'osa la suivre. Dans la foule, une femme, sans doute la mère de la gamine, cria d'indignation. Mais elle se tut dès que tous les regards des soldats se braquèrent sur elle. Derrière la boutique, dans une petite cour, une série de haillons plus miteux les uns que les autres se balançaient au vent sur des cordes à linge. À les voir osciller ainsi, on aurait pu croire qu'ils tentaient de se libérer pour fuir le plus loin possible de cet infect village. Une paire de ciseaux à la main, la villageoise attendait, blanche comme un linge. Nietzsche tira sa prisonnière jusqu'à une énorme bassine, la força à s'agenouiller et lui plongea la tête dans l'eau. Tandis que la gamine se débattait, la maîtresse de la mort arracha les ciseaux à la villageoise. Refusant d'assister au meurtre d'une adolescente, la femme releva ses jupons et s'enfuit à toutes jambes malgré les larmes qui brouillaient sa vision. Nietzsche sortit de l'eau la tête de la fille, qui lutta désespérément pour reprendre son souffle, et entreprit de couper très court ses cheveux noirs mouillés. Quand elle eut terminé, Nietzsche replongea la tête de la petite dans la bassine. Elle en ressortit assez vite, s'empara d'un morceau de savon grisâtre qui traînait par là, et frotta vigoureusement le cuir chevelu de sa victime. La fille se débattit de plus belle, les mains refermées sur la lanière de cuir qui permettait à Nietzsche de la manipuler comme une marionnette. Cette idiote se faisait sans doute mal, mais dans sa fureur, la maîtresse de la mort s'en fichait comme d'une guigne.
« Quel genre de souillon es-tu ? »
cria-t-elle en secouant comme un prunier la pauvre enfant.
« Ne sais-tu pas que tu es infesté de poux ? Mais je... »
Le savon était aussi rugueux qu'une râpe. Alors que Nietzsche frottait de plus en plus vigoureusement, la gamine hurla à la mort.
« Tu aimes avoir la tête pleine de poux ? Non, menteuse ! Sinon, pourquoi serais-tu dans cet état de crasse ? Par pitié, arrêtez ! J'essaierai de m'améliorer, je me laverai tous les jours, c'est promis !»
Dans son enfance, Nietzsche détestait revenir avec des poux des endroits où l'envoyait sa mère. Choisissant le savon le plus râpeux disponible, elle se frottait pendant des heures, juste avant d'être expédiée dans un autre lieu où elle récolterait encore de la vermine. Quand elle eut savonné et plongé plusieurs fois dans la bassine la tête de la gamine, Nietzsche la tira sous une fontaine et procéda à une ultime purification à l'eau claire. Les yeux pleins de mousse piquante, l'adolescente battit furieusement des paupières et des larmes roulèrent sur ses joues. Nietzsche lui prit le menton et la foudroya du regard.
« Tes frusques doivent être truffées de lente. Il faudra les brosser chaque jour, surtout les sous-vêtements, sinon les poux reviendront. Tu mérites mieux que d'être une petite pouilleuse. N'en as-tu donc pas conscience ?»
La gamine tenta de hocher la tête, mais la poigne de la maîtresse de la mort l'en empêcha. Ses grands yeux noirs brillants d'intelligence exprimaient toujours le même émerveillement enfantin. Si effrayante et pénible qu'ait été l'expérience qu'elle venait de vivre, son innocence y avait survécu.
« Brûle ta literie et procure-t'en une nouvelle.
considérant la misère qui régnait dans le village, ce ne serait pas un jeu d'enfant.
« Toute ta famille doit le faire aussi, et il faudra laver tous vos vêtements. »
La gamine esquissa de nouveau un hochement de tête. Sa mission accomplie, Nietzsche revint sur la place avec sa protégée. L'attirer ainsi par une laisse lui rappela une scène qu'elle n'était pas près d'oublier. La première fois qu'elle avait vu Richard. Ce jour-là, presque toutes les sœurs étaient réunies dans le grand hall du palais des prophètes pour découvrir le nouveau garçon que Verna ramenait de son très long voyage. Penchée à la balustrade en chêne de la galerie, Nietzsche jouait distraitement avec les lacets de son corset quand les lourdes portes en noyer s'étaient ouvertes. Les murmures s'étaient tus instantanément lorsqu'un petit groupe conduit par sœur Phoebe s'était avancé dans la salle au dôme majestueux. Depuis très longtemps, fort peu de garçons naissaient avec le don, et leur arrivée au palais, après qu'on les eut péniblement localisés, était toujours un grand événement. Le soir même, un grand banquet souhaiterait la bienvenue au jeune Richard. La majorité des sœurs, parées de leurs plus beaux atours, s'étaient massées dans la salle. Nietzsche avait préféré prendre place dans la galerie, histoire de voir les choses de haut. De toute façon, la venue de Richard ne l'intéressait guère. Elle avait pourtant sursauté en voyant combien Verna avait vieilli pendant son absence. En général, les voyages de récupération duraient tout au plus un an. Celui de Verna, qui l'avait contrainte à s'aventurer dans le Nouveau Monde, lui avait pris 2 décennies. Les événements qui se déroulaient de l'autre côté de la vallée des âmes perdues, la barrière qui séparait l'ancien monde du nouveau, étant difficiles à connaître, Verna avait été envoyée en mission beaucoup trop tôt. Au palais des prophètes, la vie ressemblait à un très long fleuve tranquille. Protégé par le sort qui ralentissait le temps, aucun de ses habitants n'avait vieilli pendant ses 20 ans. Ne bénéficiant plus de cette magie, Verna avait subi l'irréparable outrage des ans. Alors qu'elle devait approcher de son 160e anniversaire, soit une bonne 20aine d'années de moins que Nietzsche, elle paraissait 2 fois plus vieille qu'elle. Hors du palais, le temps reprenait ses droits, bien entendu. Mais voir une telle décrépitude chez une sœur était choquant. Alors que les sœurs applaudissaient des larmes de joie aux yeux, Nietzsche avait bâillé d'ennui. Campée au milieu de la salle, sœur Phoebe avait levé les bras pour demander le silence.
« Mes sœurs, veuillez saluer sœur Verna, enfin de retour dans son foyer. »
De nouveaux applaudissements avaient forcé Phoebe à lever de nouveau les bras.
« Puis-je vous présenter le nouvel élève que le Créateur nous envoie ?»
Elle avait fait signe à Richard d'approcher. Il avait obéi, suivi comme son ombre par Verna.
« As-tu un nom en plus d'un prénom ?»
Richard avait hésité un moment avant de répondre.
« Cypher. Veuillez accueillir Richard Cypher, le nouveau pensionnaire du Palais des Prophètes. »
Quand le garçon avait avancé d'un pas, plusieurs femmes s'étaient jetées en arrière en poussant un petit cri. Nietzsche avait également sursauté, les yeux ronds. Ce n'était pas du tout un garçon, mais un homme adulte. Malgré sa surprise, l'assistance avait de nouveau applaudi et crié de joie. Pas Nietzsche, qui n'avait pu détourner le regard des yeux gris de Richard pendant qu'on lui présentait quelques sœurs et Pacha, la novice chargée de s'occuper de lui.
« J'ai une déclaration à faire, »
avait-il annoncé en écartant la pauvre Pacha comme un cerf qui se débarrasse d'un vulgaire campagnol. Chacun de ses gestes, avait noté Nietzsche, exprimait la même autorité tranquille que ses yeux. Fasciné, l'assemblée s'était tue pendant qu'il la balayait du regard. Au moment où leurs yeux s'étaient croisés, à peine une fraction de seconde, Nietzsche avait serré plus fort la rampe de la galerie. Dès cet instant, elle s'était jurée de tout faire pour être une des formatrices de Richard. Le nouveau pensionnaire avait tapoté son Radahan du bout des doigts.
« Tant que je porterai ce collier, vous serez mes geôlières et moi votre prisonnier. Puisque je ne vous ai jamais causé de tort, cela fait de nous des ennemis. Nous sommes en guerre. »
Cette tirade avait scandalisé les sœurs. Le collier qu'on mettait autour du cou des garçons servait moins à les contrôler qu'à les protéger. Les pensionnaires du palais n'étaient pas des prisonniers, mais des invités qu'il convenait de choyer, de défendre et de former. À l'évidence, Richard ne voyait pas les choses ainsi. Quant à sa déclaration de guerre, c'était inouï. Dans la salle, la moitié des femmes s'étaient empourprées et les autres avaient blêmi. L'attitude de cet homme sortait décidément de l'ordinaire. De peur de rater un détail, Nietzsche n'osait plus battre des paupières et respirait le plus doucement possible afin de ne pas manquer un seul de ses mots. Hélas, empêcher son cœur de battre la chamade n'était pas dans ses possibilités.
« Sœur Verna m'a promis qu'on m'apprendrait à contrôler le don et que je pourrais partir dès que ce serait fait. Si vous respectez ce serment, je veux bien signer une trêve. Mais il y a des conditions. »
Richard avait levé à hauteur de ses yeux l'étrange lanière de cuir rouge qui pendait à son cou au bout d'une chaîne en or. À l'époque, Nietzsche ignorait qu'il s'agissait d'un agiel, l'arme de prédilection des morts de site.
« J'ai déjà porté un collier. La personne qui me l'a imposé l'a utilisé pour me punir, me dresser et me briser. C'est à cela que sert cet instrument. On le met à une bête ou à un ennemi. »
Le seul destin possible pour un homme pareil, avait pensé Nietzsche.
J'ai fait à cette personne la même offre qu'à vous. Je l'ai suppliée de me relâcher et elle a refusé. Alors j'ai dû la tuer. Aucune de vous ne lui arrivera à la cheville en matière de cruauté. Elle agissait ainsi parce qu'on l'avait torturée et brisée pour qu'elle s'acharne sur les autres. Ce n'était pas dans sa nature et ça la rendait plus redoutable encore. Vous pensez faire le bien en réduisant des innocents en esclavage au nom du Créateur. Je ne connais pas votre Créateur. Le seul être étranger à ce monde qui se comporterait ainsi, à mes yeux, est le gardien.
La foule avait glapi d'indignation.
Pour ce que j'en sais, vous pouvez tout aussi bien être ses disciples.
Le pauvre Richard ne savait pas en ce temps-là à quel point il avait raison.
Alors si vous me faites souffrir avec le collier, comme la personne dont je parlais, notre trêve sera rompue. Et si vous croyez me tenir en laisse, vous découvrirez en cas de problème que vous serrez la foudre dans vos poings.
Un silence de mort était tombé sur la salle. Seul au milieu de centaines de magiciennes qui contrôlaient parfaitement leur pouvoir, ignorant tout de son don et un Radahan autour du cou, Richard avait osé lancer un défi et proférer des menaces. Cet homme était bien un cerf, mais dans ce cas précis, il s'opposait ouvertement à une bande de lionnes affamées. Richard avait relevé sa manche gauche et dégainé l'épée de vérité dont la note métallique avait longuement résonné dans l'air. Fasciné, Nietzsche l'avait écouté énumérer ses conditions. Ensuite, il avait désigné Sœur Verna de la pointe de son épée.
« Cette femme m'a capturé, et je l'ai combattue tout au long de notre voyage. Pour me conduire ici, elle a tout fait, à part me tuer et attacher mon cadavre sur le dos d'un cheval. Bien qu'elle soit aussi mon ennemi, j'ai une certaine dette envers elle. Si quelqu'un touche à un de ses cheveux à cause de moi, je tuerai le coupable et la trêve sera également rompue. »
Pour Nietzsche, avoir un tel sens de l'honneur était tout simplement inimaginable. Mais ça allait parfaitement bien avec ce qu'elle avait vu dans les yeux de Richard. L'assistance avait crié de terreur quand il s'était entaillé l'intérieur du bras gauche avec son arme. Tandis que le sang ruisselait le long de la lame qu'il avait longuement passée sur la plaie, Nietzsche, contrairement aux autres sœurs, avait compris que cette épée était liée à la magie de Richard. Serrant si fort la garde que ses phalanges en étaient toutes blanches, il avait brandi l'arme au-dessus de sa tête.
« Je le jure sur mon sang. Si vous faites du mal au Bakabanmana, à Verna ou à moi, la trêve n'existera plus et vous saurez ce que veut dire le mot guerre, car je raserai le palais des prophètes. »«
À toi tout seul ?»
avait lancé Jedidiah d'une voix moqueuse. Dissimulé dans la foule au milieu de la galerie, le sorcier encore en formation savait que Richard ne le repérerait pas.
« Doutez-en à vos risques et périls. Je suis prisonnier et je n'ai plus aucune raison de vivre. Mais je suis aussi la chair et le sang de la prophétie, le messager de la mort. »
Personne n'avait osé reprendre la parole. Même si aucune n'aurait pu jurer la comprendre vraiment, toutes les femmes présentes dans la salle connaissaient la prophétie du messager de la mort. Cette prédiction, comme toutes les autres, était conservée dans les catacombes du palais. Découvrir que Richard la connaissait aussi et osait en parler à haute voix devant une telle assemblée n'était pas de très bon augure. Par prudence, toutes les lionnes qui entouraient le cerf avaient rétracté leurs griffes. Son discours terminé, Richard avait rengainé son épée, un geste qu'il parvenait à rendre menaçant. Dès cet instant, Nietzsche avait compris que ce qu'elle venait de voir dans les yeux de cet homme et dans sa prestance même la hanterait jusqu'à la fin de ses jours. Une autre vérité s'était imposée à elle. Tôt ou tard, elle devrait tuer Richard Seifer. Pour devenir une de ces six formatrices, elle avait dû multiplier les promesses de faveur et jurer de s'acquitter d'obligations qui heurtaient profondément sa vision d'elle-même. Mais le jeu en valait la chandelle. Assise à une petite table en face de lui, dans sa chambre, lui serrant légèrement les mains, en admettant qu'on puisse saisir légèrement la foudre, elle s'était acharnée à lui apprendre à toucher son Han, l'essence même de la vie et de la magie chez les êtres nés avec le don. Malgré des efforts méritoires, Richard ne sentait rien. Un phénomène étonnant en soi, mais la minuscule étincelle que Nietzsche captait en lui suffisait à lui couper le souffle, la laissant souvent incapable de parler. Pour les avoir interrogés, l'air innocent, elle savait que les cinq autres formatrices n'avaient rien remarqué. Même si elle ne parvenait pas à identifier ce que l'esprit et le corps de Richard avaient de si particulier, Nietzsche avait conscience que cela la troublait, traversant le bouclier d'habitude impénétrable de son indifférence. Avant de tuer cet homme, s'était-elle juré, il fallait qu'elle sache de quoi il s'agissait. Bizarrement, il lui arrivait souvent d'avoir envie de le détruire avant d'avoir découvert la vérité. Chaque fois qu'elle pensait avoir soulevé un morceau du voile, et donc être en mesure de prédire ce qu'il ferait dans une situation donnée, Richard la prenait à contre-pied, en agissant d'une façon totalement inattendue, voire contraire à tout ce qu'elle aurait pu postuler. Régulièrement, il réduisait en cendres le savoir qu'elle croyait avoir accumulé sur son étrange personnalité. Désespéré, Nietzsche passait des heures seul dans sa chambre, persuadé que la réponse lui crevait les yeux, mais qu'elle ne parvenait pas à la voir. Une certitude l'habitait, la clé de l'énigme était un principe moral d'une importance démesurée. Mais bien qu'elle sût quoi chercher, elle tournait toujours en rond. Toujours mécontent d'être prisonnier, Richard était devenu de plus en plus distant avec elle. À bout de nerfs, Nietzsche avait décidé de l'assassiner. Un jour, alors qu'elle venait dans sa chambre pour ce qui aurait dû être leur dernière séance, il l'avait stupéfiée en lui offrant une rose très rare. Pique tout, il lui avait fait ce présent avec un doux sourire et sans daigner lui offrir l'ombre d'une explication. La fleur dans la main, elle avait seulement pu lâcher un « Merci, Richard » du plus parfait ridicule. Ces roses venaient de partie du palais interdite à tous les étudiants et où il n'aurait pas dû pouvoir s'introduire. Apparemment, il avait trouvé un moyen et il ne craignait pas de le faire savoir à une de ses formatrices. Un comportement étonnant. Tenant la fleur entre le pouce et l'index, Nietzsche s'était demandé s'il entendait lui rappeler en lui offrant une rose interdite qu'il était le messager de la mort, toujours plus menaçant qu'on pouvait le croire. Ou s'agissait-il d'un simple geste d'amitié, si aberrant que cela sembla? En tout cas, elle avait décidé de ne pas mettre son projet à exécution. Une fois encore, la nature même de Richard l'avait prise au dépourvu et contrainte à la prudence. Les autres sœurs de la lumière avaient également des vues sur le nouvel étudiant. Pour Nietzsche, le don de Richard était de très loin sa caractéristique la moins remarquable et importante. Ce n'était pas l'avis de Liliana, une autre formatrice, une femme aux appétits dévorants et à l'intelligence limitée, qui avait décidé de voler le Han du jeune homme. Une confrontation mortelle s'était ensuivie, et Liliana avait perdu. Les cinq formatrices survivantes et Ulyssia, la chef des sœurs de l'obscurité, avaient été démasquées. Contraintes de fuir le palais, elles avaient fini par tomber entre les mains de Jagang. À ce jour, Nietzsche ne savait toujours pas quelle vertu si particulière elle avait vue briller dans les yeux de Richard Seifer. Pour elle, tout avait très mal tourné. Dès que Nietzsche lâcha la laisse, la gamine fraîchement débarrassée de ses poux courut se réfugier dans les bras de sa mère.
« Eh bien ?» lança Cardiff, les poings plaqués sur les hanches. « Tu en as fini avec tes petits jeux ? Il est temps que ces gens découvrent le véritable sens du mot brutalité !»
Nietzsche sonda les yeux noirs de l'officier. Elle y lut du défi, de la colère et de la détermination, mais rien de commun avec ce qui brillait dans ceux de Richard. La maîtresse de la mort se tourna vers les soldats.
« Vous deux ?
lança-t-elle à un duo de colosses.
« Emparez-vous du commandant !»
Les hommes écarquillèrent les yeux et Cardiff s'empourpra de colère.
« Enfin, voilà le moment que j'attendais » s'écria-t-il. « Tu es allé trop loin, garce vêtu de noir !»
Il se tourna vers ses hommes, 2000 guerriers aguerris, et désigna Nietzsche dans son dos.
« Finissons-en avec cette sorcière folle !»
Les 6 soldats les plus proches de Nietzsche dégainèrent leurs armes. Comme tous les combattants de l'ordre, ils étaient forts, très grands et terriblement rapides. Nietzsche tendit simplement un poing vers le colosse qui s'apprêtait à propulser sur elle la lanière de son fouet, sans doute pour lui entraver les bras. Aussitôt, les magies additives et soustractives se combinèrent pour générer un éclair blanc si aveuglant que la lumière du soleil en comparaison parut soudain pâlichonne. L'éclair fora dans la poitrine du soldat un trou du diamètre d'un melon. Un instant avant que les organes du type se déversent par cet orifice, Nietzsche aperçut à travers les hommes qui se tenaient derrière le moribond. L'odeur âcre de la fumée acide lui faisant picoter les yeux, la maîtresse de la mort entendit l'écho de sa foudre magique se répercuter jusque dans les champs de céréales environnants. Avant que sa première victime ait touché le sol, elle frappa 3 autres soldats, arrachant à l'un d'eux un bras et une épaule qui allèrent s'écraser au milieu de la foule. Un autre fut coupé en deux, et la tête du dernier explosa dans une gerbe de sang et d'éclats d'os. Alors que l'onde de choc du sortilège lui donnait le sentiment qu'une main invisible déchirait sa poitrine de l'intérieur, Nietzsche jeta un regard d'avertissement aux 2 agresseurs survivants, qui continuaient d'avancer vers elle, couteau au poing. Comprenant qu'ils n'avaient aucune chance de s'en tirer, les soldats s'immobilisèrent. Dans les rangs, des dizaines d'hommes reculèrent d'instinct, alors que l'écho des 4 détonations, parfaitement distinctes pour Nietzsche, mais si rapprochées qu'elles n'en formaient qu'une aux oreilles de tous les témoins, faisait encore trembler les bâtiments.
« Et maintenant ?»
dit Nietzsche aux soldats d'une voix étrangement douce, et de ce fait d'autant plus menaçante.
« Si vous ne m'obéissez pas, je m'emparerai seul du commandant Cardiff, mais bien entendu j'aurais pris la précaution de vous tuer tous avant. »
Pas un homme n'osa répondre.
« Exécutez mon ordre ou préparez-vous à mourir, je n'attendrai pas très longtemps. »
Les soldats n'hésitèrent plus. Connaissant la maîtresse de la mort, ils savaient qu'elle ne se vantait pas. Des dizaines d'hommes se jetèrent sur Cardiff, qui réussit de justesse à dégainer son épée. Familier des batailles rangées, il parvint à crier des ordres tout en ferraillant. Sans l'écouter, ses soldats lancèrent clair. Plus d'un tomba raide mort, le cœur transpercé. Mais 2 hommes parvinrent à sauter sur le dos du commandant et à immobiliser son bras droit. D'autres vinrent les aider, et Cardiff, submergé par le nombre, fut bientôt désarmé, jeté à terre et solidement maintenu par des dizaines de mains.
« Que crois-tu faire, sorcière ? »
cria-t-il tandis que les soldats le remettaient debout. Nietzsche approcha du commandant, qui avait les bras retournés dans le dos par 2 hommes, et sonda calmement ses yeux écarquillés de fureur.
« Eh bien, j'exécute vos ordres, tout simplement. »«
Que veux-tu dire, espèce de folle ?»
La maîtresse de la mort sourit, pas parce qu'elle en avait envie, mais pour énerver encore plus l'officier.
« Que devons-nous faire de lui ?»
demanda un des soldats.
« Surtout ne le frappez pas, parce que je veux qu'il soit conscient jusqu'au bout. Déshabillez-le et attachez-le sur la broche. »«
La broche ?»
répéta l'homme, désorienté.
« Celle où rôtissaient les cochons que vous avez dévorés ?»
Nietzsche claqua des doigts, et les soldats commencèrent à dévêtir leur chef. Impassible, la maîtresse de la mort ne rata pas une miette du spectacle. Devenu un butin comme les autres, l'uniforme et les précieuses armes de Cardiff disparurent prestement dans les rangs, où les soldats les plus féroces se les approprieraient, comme toujours dans ce genre de cas. Grognant sous l'effort, 10 d'hommes attachèrent Cardiff à la broche que d'autres étaient allés chercher et qu'il tenait plaqué contre son dos. Quand ce fut fait, Nietzsche se tourna vers les villageois.
« Le commandant Cardiff tenait à vous montrer à quel point nous pouvons être brutaux. Je vais exécuter ses ordres et vous faire voir un spectacle que vous n'oublierez jamais. »
Elle se retourna vers les soldats.
« Posez-le sur les flammes qu'il rôtisse comme le porc qu'il est. »
Les hommes obéirent, portant jusqu'au feu de cuisson le héros de la petite brèche et compagnon de longue date de Jagang. Mais l'empereur, croyait-il savoir, les regardait à travers les yeux de Nietzsche, et il serait intervenu s'il avait désapprouvé la mise à mort du commandant. Celui qui marche dans les rêves était capable de forcer toutes les sœurs, y compris la maîtresse de la mort, à exécuter ses volontés, si dégradantes qu'elles fussent en certaines occasions. Bien entendu, ils ignoraient que Jagang, pour une raison inconnue, n'avait pas accès à l'esprit de Nietzsche en ce moment. Quand elle fut mise en place dans ses supports de pierre, des deux côtés de la fosse à feu, la broche oscilla un moment à cause du poids de Kadar. Puis elle se stabilisa et le commandant, saucissonné comme un vulgaire quartier de viande, bénéficia d'une vision privilégiée sur les bûches et les boulets de charbon chauffés au rouge disposés sous son ventre. Bien que les flammes ne fussent pas très vives, sa chair ne tarda pas à roussir. Sous le regard incrédule des villageois, Kadar se tortilla entre ses liens et cria à ses hommes de le détacher. Voyant qu'ils ne bronchaient pas, il les menaça de punitions qu'il ne serait plus jamais en mesure de leur infliger. Enfin conscient qu'il était perdu, il se tut et mobilisa son énergie sur une tâche impossible, tenter de contrôler la terreur qui l'envahissait. Campé devant les villageois, Nietzsche tendit nonchalamment un pouce dans son dos.
Voilà une belle illustration de la cruauté de l'ordre impérial, dit-elle d'un ton neutre. Pour prouver à d'insignifiants paysans comme vous qu'ils n'ont pas de pitié à attendre de l'empereur, nous faisons aujourd'hui rôtir vif un héros de guerre qui a maintes fois prouvé sa valeur et qui a consacré sa vie à servir loyalement la cause de son maître. Comprenez-vous à présent que rien ne nous arrête? Nous luttons pour le bien de tous. Et cet idéal est plus important que n'importe quel individu, fût-il l'un des meilleurs d'entre nous. Maintenant, mes bonnes gens, pensez-vous encore que nous vous épargnerons si vous refusez de contribuer au glorieux effort commun?
Non, maîtresse,
murmurèrent presque tous les villageois. Dans le dos de Nietzsche, Cardiff hurla de douleur. Jouant en vain sa dernière carte, il cria ensuite à ses hommes de le détacher et de tuer la sorcière démente. Pas un soldat ne broncha. À voir les visages de ces soudards, on eût même pu douter qu'ils aient entendu leur ancien chef. Pour eux, la compassion n'existait pas, et il n'y avait que la vie et la mort, et pour qu'ils continuent à vivre, Kadar Cardiff devait mourir. Alors que les minutes passaient lentement, Nietzsche garda les yeux rivés sur la foule. Le commandant était assez haut au-dessus des flammes, mais elles reprenaient de la vigueur car un soldat se chargeait de les attiser. De temps en temps, une bourrasque venait chasser leur chaleur, offrant aux suppliciés un répit illusoire. Son calvaire serait plus long, mais l'issue restait inévitable. Nietzsche ne demanda pas qu'on ajoute du bois et du charbon dans la fosse, elle avait tout son temps. Bientôt, les villageois et certains soldats plissèrent le nez, car l'odeur de poils brûlés devenait insupportable. La peau de la poitrine et du ventre de Kadar, d'abord rouge vif, commença à noircir. Au bout d'un quart d'heure, elle se craquela puis explosa, et tout ce temps, le commandant avait crié de douleur. La puanteur bizarrement fut remplacée par une appétissante odeur de viande rôtie. Quand il sentit que la faim approchait, Kadar implora sa tortionnaire. Criant son nom, il la supplia d'en finir en l'achevant ou en le libérant. Alors qu'il pleurnichait comme un enfant, Nietzsche caressa l'anneau d'or qui transperçait sa lèvre inférieure. La voix du moribond la dérangeait à peine plus que le bourdonnement d'une mouche. La fine couche de graisse qui couvrait les muscles de Kadar commença à fondre. Ravivés par ce combustible, les flammes crépitèrent et lui léchèrent le visage.
« Nietzsche !»
hurla Kadar. Sachant que ses suppliques tombaient dans l'oreille d'une sourde, il ne tenta plus de dissimuler ses véritables sentiments.
« Immonde salope ! Tu méritais toutes les horreurs que je t'ai infligées !»
La maîtresse de la mort se tourna vers le commandant et croisa froidement son regard voilé par la douleur et la terreur.
« C'est vrai, je les méritais. Dites bonjour pour moi au gardien, Kadar.
Tu lui diras bientôt toi-même. Quand Jagang saura ce que tu as fait, il te taillera en pièces de ses mains. Tu seras bientôt dans le royaume des morts en face du gardien. »
Une fois encore, les paroles de Kadar n'eurent pas plus d'importance pour Nietzsche que le bourdonnement d'un insecte. Le front ruisselant de sueur, les villageois continuaient d'assister à l'atroce spectacle. Sans que la maîtresse de la mort ait eu besoin de le leur dire, ils savaient qu'elle ne les autoriserait pas à s'en détourner. Ainsi, s'ils envisageaient un jour de désobéir à l'ordre,
leur imagination leur infligerait un châtiment 10 fois pire que tout ce que Nietzsche pouvait leur faire. Seuls les jeunes garçons semblaient plus fascinés que révulsés. Nietzsche remarqua qu'ils échangeaient sans cesse des regards appréciateurs. Les tortures de ce genre étaient une vraie petite fête pour un esprit enfantin. Un jour, ces gamins feraient de très bons combattants pour l'ordre, si leur cerveau ne se développait pas trop. Nietzsche croisa le regard de la petite pouilleuse, et la haine qu'elle lut dans ses yeux lui coupa le souffle. Même si elle avait détesté qu'on lui plonge la tête dans l'eau et qu'on la lui savonne sans douceur, cette expérience ne l'avait pas privée de la certitude de vivre dans un monde merveilleux et d'être quelqu'un de très spécial. À présent, elle avait perdu sa candeur. Très droite, le torse bombé, Nietzsche reçut de plein fouet la haine de l'adolescente. Événement rare pour elle, elle eut le sentiment de vivre une expérience très forte. Cette petite idiote ne se doutait pas que le commandant Cardiff rôtissait à sa place sur les flammes. Quand il cessa enfin de crier, Nietzsche détourna les yeux de la gamine et s'adressa à la foule.
« Le passé est mort. Désormais, votre destin est lié à celui de l'ordre impérial. Si vous ne vous rachetez pas en contribuant à la cause commune, je reviendrai. »
Personne ne douta qu'elle disait vrai, et tous n'avaient plus qu'un seul désir, ne jamais la revoir. Un soldat, les bras le long du corps et les mains tremblantes, approcha de Nietzsche d'un pas d'automate. À l'évidence, il souffrait atrocement.
« Je veux que tu rentres, ma petite chérie, et sans tarder. »
Jagang. Contrôler l'esprit des gens dépourvus de pouvoir lui coûtait beaucoup. Pourtant, il tenait fermement le soldat sous son emprise. S'il avait pu s'introduire dans la tête de Nietzsche et lui imposer sa volonté, il n'aurait pas trahi son impuissance en recourant à un intermédiaire. La maîtresse de la mort ignorait pourquoi il ne pouvait soudain plus l'atteindre. Mais ce n'était pas la première fois que ça arrivait, et elle savait que ça ne durerait pas. Tôt ou tard, il la reprendrait entre ses griffes.
« Vous êtes en colère contre moi, Excellence ?»«
À ton avis ?»«
Eh bien, puisque Kadar était meilleur que vous au lit, j'ai pensé que vous seriez content d'en être débarrassé. »«
Reviens immédiatement auprès de moi, c'est compris ? Immédiatement !»«
Comme il vous plaira, Excellence. »
Nietzsche tendit la main, dégaina le coutelas que l'homme portait à la ceinture et le lui enfonça dans le ventre. Grognant sous l'effort, elle fit remonter lentement la lame, coupant en deux tous les organes vitaux de sa victime. En attendant que sa calèche ait fait le tour de la place pour la reprendre, Nietzsche regarda le soldat agonisé à ses pieds. À son avis, le véritable propriétaire de ce corps ne saurait jamais ce qui lui était arrivé, car le rictus de Jagang flotta jusqu'au bout sur les lèvres de la future charogne. Celui qui marche dans les rêves ayant besoin d'un esprit vivant pour se manifester, la maîtresse de la mort aurait la paix pendant un bon moment. Quand la calèche fut arrivée, un soldat se précipita pour ouvrir la portière. Montant sur le marchepied, Nietzsche se retourna vers les villageois et se redressa de toute sa taille pour que tout le monde la voie bien.
« N'oubliez jamais cette journée où Jagang le Juste épargna vos misérables vies. Le commandant vous aurait massacré. À travers moi, l'empereur vous a montré l'étendue de sa compassion. » Parlez autour de vous de la sagesse et de la bonté de Jagang le Juste, et je ne serai jamais contrainte de revenir. »
Tous les villageois murmurèrent qu'ils chanteraient les louanges de l'empereur.
« Devons-nous ramener avec nous la dépouille du commandant ?»
demanda un capitaine. Ce fidèle second de Cardiff portait à présent son épée au côté. Comme pour les légumes, le destin de la loyauté était de se faner puis de pourrir et de puer insupportablement.
« Alors qu'il n'a pas fini de rôtir, non, laissez-le ici à titre d'exemple. À part lui, tout le monde rentre avec moi à Fairfield. »«
À vos ordres !»
répondit l'homme. Il fit signe aux soldats d'aller récupérer leurs montures. Nietzsche se pencha en avant et s'adressa au cocher.
« L'empereur veut me voir. Bien qu'il n'ait rien précisé à ce sujet, je suppose qu'il aimerait que tu ne traînes pas en chemin. »
La maîtresse de la mort s'assit sur la banquette, le dos bien droit.
Quand la calèche s'ébranla, elle se retint à l'encadrement de la fenêtre pour ne pas être trop secouée tant que le véhicule n'aurait pas fini de traverser la place au sol dur et irrégulier. Dès que l'attelage eut rejoint la route, les choses s'arrangèrent assez pour que la passagère se détende un peu. Filtrant par la fenêtre, un rayon de soleil venait caresser la place vide en face d'elle. Quand la calèche négocia un virage serré, il changea de place, sautant sur ses genoux comme un chat désireux de recevoir son content de caresses. Des soldats en uniforme noir chevauchaient devant, derrière et sur les flancs de la calèche, soulevant une impressionnante colonne de poussière. Pour l'instant, Nietzsche n'avait rien à craindre de Jagang. Et bien qu'elle voyageât avec 2000 hommes, elle se sentait seule, comme d'habitude. Mais bientôt la douleur viendrait remplir son terrible vide intérieur. Elle n'éprouvait ni joie ni angoisse. Parfois, elle se demandait pourquoi elle ne ressentait rien à part le besoin de souffrir. Alors que la calèche la conduisait vers Jagang, elle pensa à un autre homme, tentant de se rappeler toutes les occasions où elle l'avait croisé. Elle revit chacune de ses rencontres avec Richard Seifer, ou plutôt Richard Rall, puisqu'il était maintenant connu sous ce nom, y compris par l'empereur. Elle se souvint de ses yeux gris. Jusqu'à ce fameux jour, elle n'avait jamais cru qu'un être pareil pût exister. Depuis, chaque fois qu'elle pensait à lui comme à présent, un désir obsédant la torturait. L'irrépressible envie de le détruire.